consigne des contenants, pénurie de main-d'œuvre, code de bonne pratique dans le commerce alimentaire, autant de préoccupations pour les détaillants en alimentation. J'ai fait le point avec le président-directeur général de l'ADA, Pierre-Alexandre Blouin. Le congrès 2021 célébrait le 65e anniversaire de l'Association des détaillants en alimentation.
Oui, c'est une belle occasion de se rencontrer l'ensemble des détaillants de partout au Québec. Après une période qui était très différente, une période qui nous a isolés un peu, je pense que les gens étaient très contents de se retrouver dans le cadre de notre congrès. C'est une organisation qui a pas mal d'histoire derrière, puis je pense qu'il y a un bel avenir en avant également.
Parlant d'avenir, il a été question de relève. Ça semble préoccuper bien des gens, et c'est normal. Il y a tellement d'entreprises qui n'ont pas de relève ou qui attendent la relève.
Bien, je vous dirais, chez nous, on est quand même assez optimiste par rapport à la relève. On a vu ici participer beaucoup de premiers participants à notre congrès, des gens qui viennent de prendre possession de magasins, des gens de deuxième, troisième, quatrième génération. On est chanceux. Je pense qu'on est un secteur qui est privilégié à ce niveau-là. Puis je pense qu'hier, dans le cadre de notre Temple de la renommée, les gens qui ont été intronisés nous rappelaient que, oui, on a des épreuves difficiles, on a des grands enjeux de main-d'œuvre, mais que dans le cadre de tout leur parcours, dans leur vie, dans leur profession, ils en ont frappé des très difficiles, qu'on pense au taux d'intérêt des années 80, qu'on pense à des situations un petit peu catastrophiques dans certains cas. Je pense que chaque génération a ses défis. C'est certain que le nôtre, notre défi, c'est la main-d'œuvre actuellement, puis pour plusieurs années.
On parle de relève, mais la main-d'œuvre, de façon générale, de façon globale, c'est un problème partout, partout dans le monde agroalimentaire et chez les commerçants d'alimentation également.
Il manque à peu près 10 % en moyenne dans l'ensemble des magasins, 10 % de personnel, pour être à pleine capacité dans nos magasins. Ça, c'est la première chose.
Ça veut dire quelques milliers de personnes.
Ah, il manque des milliers d'employés dans nos magasins. Puis je vous dirais, c'est la même réalité dans des grands supermarchés, des commerces spécialisés, des dépanneurs. Dans l'ensemble des magasins, il y a des problèmes. Puis l'autre enjeu qui est très préoccupant, si on a peut-être mal préparé la nouvelle réalité avec le déclin démographique, c'est qu'on a aussi près de 20 % de nos employés qui sont âgés de plus de 55 ans et plus. Donc, si on n'adresse pas la situation avec force très rapidement, bien, on risque de se retrouver avec une hémorragie qui va être encore plus importante. Donc, le 10 % va peut-être devenir beaucoup plus important. Puis, je vous donne un autre exemple. On a fait un sondage avant le début du congrès, puis on a des régions où ça peut monter au-delà de 25 %. Donc, un magasin qui manque le quart de son personnel, bien, ça signifie fermeture de département, rupture de service, de certaines choses qui sont prises pour acquis par le client, mais qu'on ne sera plus capable d'offrir, malheureusement.
Ça veut dire, selon vous, qu'il faut davantage ouvrir le Québec à un certain niveau d'immigration, un niveau plus élevé, parce que le recrutement local, il est devenu excessivement difficile, sinon carrément impossible.
Bien, dans certaines régions, il n'y a tout simplement pas de gens disponibles. Hier, à la blague, notre président disait « Quel problème de main-d'œuvre? On n'en a pas de main-d'œuvre. » C'était une boutarde, vous comprenez, mais en même temps, on vit une situation où nous, on a toujours accepté tous les types de candidats. On n'a jamais fait la fine bouche. On a toujours accepté des immigrants de première génération. On les intégrait en magasin, on les a francisés. On a tout fait pour les accommoder parce qu'on a une foule de tâches qui peuvent être faites. Donc, quelqu'un qui a plus de difficultés avec la langue, il peut faire un travail de commis. Souvent, il peut avoir des compétences particulières, que ce soit en boulangerie, en boucherie, en préparation d'aliments. Donc, on est capable d'intégrer. Puis, on a toujours été une porte d'entrée dans le marché du travail très importante, autant pour les jeunes que, comme je dis, pour les nouveaux arrivants. Mais là, tout le monde se bat pour toutes les poches d'employés disponibles. Puis là, bien, ça va être à nous de redevenir cette porte d'entrée-là. Donc, on doit vraiment intervenir aux deux niveaux, selon moi. L'entrée, donc être l'école des travailleurs d'une foule de secteurs, puis également maintenir en travail le plus longtemps possible les gens qui pourraient quitter pour la retraite.
Intervenir aux deux niveaux, mais aux deux niveaux politiques aussi.
Tout à fait. C'est une responsabilité qui est partagée. Il y a des responsabilités au niveau fédéral, au niveau de l'immigration, puis le Québec a également des responsabilités là-dedans. Puis c'est là qu'on est un petit peu en faux avec les visées du gouvernement. C'est certain qu'on croit qu'il faudrait augmenter les taux d'acceptation de nouveaux arrivants. Écoutez, on est capable de les absorber, ces gens-là. Il n'y a pas d'enjeu d'intégration. Je peux vous dire, dans l'ensemble des régions du Québec, il y a des détaillants qui sont prêts à prendre des responsabilités pour aider ces gens-là à se positionner puis à faire une belle vie dans nos régions. Je pense à la Côte-Nord, je pense à l'Abitibi, je pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense à Chaudière-Appalaches, qui vit une pénurie de main-d'œuvre pas depuis un an. Là. Ça fait plus de 5 ans qu'on est en situation problématique dans ces régions-là. Donc, nous, des nouveaux arrivants, on va tout faire pour les intégrer dans nos magasins.
L'inflation, Il y a une poussée inflationniste actuellement, et ça, vous le voyez dans toutes les épiceries. Les consommateurs le voient aussi. Comment vous abordez ça, cette question-là? Est-ce que ça vient changer le portrait, le choix des consommateurs, l'approche dans la présentation des produits de façon générale? Comment vous voyez ça?
Bien, nous, on est tributaire d'une foule de facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Nous, si les intrants des producteurs augmentent puis que le produit augmente, nécessairement, le produit va être vendu plus cher. Mais là, ce qu'on vit, oui, au-delà des différentes filières d'approvisionnement de produits, d'intrants, etc., c'est que c'est la multiplication des salaires qui est devenue vraiment le facteur le plus important pour l'augmentation des coûts. Si le producteur doit augmenter ses salaires, si le transformateur doit augmenter ses salaires, si le camionneur doit augmenter ses salaires, le distributeur doit augmenter ses salaires, puis que moi, je dois augmenter mes salaires, je veux dire, c'est inaliénable. On ne pourra pas se sortir sans des augmentations de coûts. Puis je pense qu'à un moment donné, il va falloir comprendre que, sans politique conséquente, c'est certain qu'on va avoir des augmentations de coûts. Puis c'est malheureux. Le consommateur va devoir faire des choix. Nous, on va adopter l'offre en fonction de ce qu'il décide d'acheter. J'espère que nos entreprises québécoises vont rester compétitives parce que plus le consommateur va se sentir contraint dans l'achat de ses produits puis dans ses capacités d'achat, bien, il risque de se retourner vers des produits d'entrée de gamme ou des produits qui sont peut-être moins différenciés que certains de nos producteurs produisent. Donc, évidemment, on a des produits locaux dans l'ensemble des gammes de produits. Mais je pense que ça va devenir plus difficile pour certains qui ont privilégié d'autres créneaux de commercialisation.
Et dans tout ça, il y a qui se profile à l'horizon un code de conduite, un code de bonne pratique, pourrait-on dire également. Ça, vous êtes parti aux discussions là-dessus?
Oui, en fait, on est très heureux de notre collaboration dans ces travaux-là, avec une foule d'autres associations d'ailleurs. Je pense au CETAC, le Retail Council, l'Association canadienne des épiciers indépendants, la QDFL. On a créé une table de discussion entre nous qui est devenue une alliance carrément. On a partagé nos intérêts. On est arrivé à des consensus sur des grands principes à ne pas remettre en question. Je pense qu'une bonne partie du travail est faite. L'industrie est consciente qu'elle a besoin d'améliorer ses processus entre les différentes parties prenantes. Puis je pense que c'est important que ce soit l'industrie qui garde le leadership de ce processus-là. On a la capacité, premièrement, de se parler, on a la capacité de trouver des solutions, puis on a la capacité de les mettre en place. Je crois que le gouvernement peut avoir un rôle d'encadrement ou un rôle d'accompagnement du processus, mais ça doit être un processus mené et gouverné par l'industrie.
Et c'est ce que c'est actuellement?
C'est ce que c'est actuellement. C'est sûr que je ne peux pas présumer de la solution finale, mais je pense pour que ce code-là puisse bien fonctionner et évoluer dans le temps, ça va être important, comme je l'ai dit, que ce soit un code de l'industrie.
Je fais une pause dans l'entrevue pour introduire le sujet suivant, celui de la consigne des contenants, avec ces nouvelles règles qui entreront en vigueur dans un peu plus d'un an. Le président du conseil d'administration de l'ADA, Michel Dépaty, de Métro plus Dépaty de Laval, a été très catégorique en s'adressant aux congressistes.
Vous savez, le temps passe, hein? On s'en vient en 2022. Puis qu'est-ce qui arrive en 2023? Hey, ça va-tu être beau? Imaginez 8 machines à l'entrée de vos magasins. Ça va-tu être magnifique? On va-tu avoir le temps de s'occuper de ça? Hey, moi, j'ai pas le goût, là. Puis là, je vois M. Tremblay qui arrive avec son sac de contenant. Puis là, il dit, « Monsieur Dépaty, qu'est-ce que je fais avec ça? » Bon, ben Monsieur Tremblay, on part. Ici, c'est l'aluminium. Après ça, on a le plastique. Après ça, on a le verre. Le lait. Mais là, après ça, on a la bière. Mais pas toutes les sortes de bières. Le Monsieur Dépaty, je comprends plus rien. Mais là, vous savez, on comprend le gouvernement. On n'est pas là pour se battre contre l'environnement, nous, l'association. Puis on comprend ce que le ministre veut arriver avec des cibles en 2025-2030. On comprend la situation au niveau de l'environnement, puis on comprend que les matières, on veut la reprendre à l'état pur. Mais disons que moi, ce qui est clair, là, j'aime quand c'est normal, puis j'aime quand c'est logique dans la vie. Je peux pas concevoir que nous, on va être le fardeau, puis que ça va être à nous de travailler sur ce système-là, alors que, sérieusement, là, c'est impossible. Alors, on va travailler pour vous représenter, pour essayer de trouver des solutions, pour qu'on soit capable de trouver un terrain d'entente pour que ça soit quelque chose de gagnant-gagnant. On ne veut pas écœurer nos consommateurs. Vous n'êtes pas là pour vous battre avec vos clients. On est là pour travailler et servir nos clients.
Reprenons donc l'entretien que j'ai eu avec Pierre-Alexandre Blouin. La question de la consigne, bon, ça peut sembler banal pour bien des gens, mais c'est tout un casse-tête pour les commerçants. Et d'ailleurs, votre président, M. Dépaty, tantôt le disait. Comment est-ce que la plupart des commerçants, peut-être pour quelques-uns, on pourra s'organiser avec des locaux en conséquence, mais pour la majorité, ce sera excessivement difficile d'élargir, comme le gouvernement l'a prévu, la consigne des contenants, là.
Bien, je vous dirais, le problème est mathématique à l'heure actuelle. On vous parlait tout à l'heure de problématiques de main-d'œuvre. Évidemment, on ne peut pas attitrer 100% de nos ressources à la gestion de matières résiduelles. Ce n'est pas notre rôle principal dans la vie. Ceci dit, on l'a fait depuis de nombreuses années. On a géré des contenants consignés parce que la loi nous le prescrivait. Puis on continue à le faire aujourd'hui, même si ce n'est pas l'activité qu'on préfère, on s'entend, dans nos magasins. Mais le problème, il est vraiment mathématique. On va passer d'à peu près 2 points quelques milliards à presque 5 milliards de contenants. Nos magasins débordent à l'heure actuelle. Ce qu'on dit au gouvernement depuis le début du processus, c'est qu'il va falloir déployer un système beaucoup plus automatisé pour combler les problèmes de main-d'œuvre, puis surtout un système logistique beaucoup plus efficace et dédié à cette gestion-là. On ne peut pas faire de la collecte de ces contenants-là en manuel comme on a dans plus de 5000 magasins à l'heure actuelle. Il va vraiment falloir avoir des machines, avoir un système logistique, une procédure qui va être plus efficiente, parce que sinon, le défi, malheureusement, bien, il risque de rentrer dans un mur. On ne sera pas capable de faire la gestion. À l'heure actuelle, ce qu'on nous décrit, puis on a eu plusieurs discussions là-dessus durant la fin de semaine, il y a des ruptures de service à l'heure actuelle avec la consigne existante. Donc, rajouter 3 milliards de contenants dans le même système, je ne vois pas comment on va réussir à le faire fonctionner plus rapidement. Puis, on est de bonne foi. Si on développe un modèle d'affaires de gestion de contenants assez efficace, il y a probablement plusieurs de nos membres qui seront volontaires pour l'exploiter. Mais la condition sine qua non avant tout ça, c'est de développer ce modèle d'affaires-là. Heureusement, on a mis en place plusieurs projets pilotes avec le reste des partenaires de l'industrie, des projets pilotes à Granby, à Terrebonne, à Cap-de-la-Madeleine, à Montréal également. On a plusieurs projets pilotes avec plusieurs modèles de récupération, puis on espère que les enseignements de ces pilotes-là vont être extrapolés dans le nouveau système. Il reste que ça va être toute une modification pour le consommateur, plusieurs contenants qui ne sont pas habitués de ramener chez nous. Donc, ça va être un grand défi pour l'ensemble de la société, mais je pense qu'il va être un défi qu'on peut relever, parce qu'il n'y a aucun défi qu'on ne peut pas relever, mais il faut le faire de la bonne façon, puis il faut vraiment automatiser ces processus-là, parce qu'on va se retrouver sinon avec un problème. Puis la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est de rater cette modernisation-là de la consigne. Ce serait vraiment un échec cuisant pour l'ensemble de l'industrie et le gouvernement.
En terminant, M. Blouin, le Congrès, c'est également l'occasion d'honneur de souligner la participation, la reconnaissance face à des gens qui ont travaillé depuis fort longtemps, là.
On avait le temps de la renommée hier. On a intronisé 4 bâtisseurs de notre industrie. Tout d'abord, au niveau du volet des fournisseurs, une entreprise qui est peut-être méconnue, mais dont vous connaissez certainement les marques, la moutarde maille, plusieurs produits d'importation très importantes, ID Food, Philip Eisenman. Également au niveau des détaillants, Suzanne Corriveau, qui exploite 2 IGA coopératifs à Plessisville et Princeville. On a eu Gilles Bouchard, un exploitant Provigo sur la rive nord de Montréal, Charles Fordham du métro Fordham, et Jean-Claude et Lauriette Fortin de la boucherie J.C. Fortin en Mauricie, qui est une institution. Tous ces gens-là, chacun à leur façon, ont bâti notre industrie, ont amené l'industrie où elle est aujourd'hui. Puis c'est des modèles vraiment, vraiment importants. Comme je vous le disais tout à l'heure, les écueils qu'on rencontre dans la vie quand on regarde notre vie a posteriori, c'est pas si grave que ça. Il faut regarder l'ensemble du processus. Puis ces gens-là nous rendent très optimistes par rapport au futur. C'est pour ça qu'on tient vraiment à souligner le travail de ces gens-là, parce que ça nous donne des modèles qui sont très importants pour la relève qu'on souhaite aussi énergique puis bâtisseur.
Pierre-Alexandre Blouin, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Ici Lionel Levac. Dans le cadre du concours Les aliments du Québec dans mon panier, 4 équipes gagnantes. Catégorie commerce de proximité, Métro plus Châteauguay et Les Herbes gourmandes. Également, Bonichois famille Jasmin de Sainte-Marguerite du Lac-Masson en équipe avec Boulangerie Saint-Donat. Catégorie produits régionaux, les breuvages atypiques avec le marché IGA Lambert de Delson. Enfin, le prix du public, Intermarché Boyer de Montréal avec le vignoble Coteau-Rougemont. Au revoir.